RFI, 6h30 à Paris, 5h30 en temps universel.
RFI Matin.
Bonjour Vincent Dublanche.
Bonjour Julien, bonjour tout le monde.
La situation autour de Goma dans l'est de la République démocratique du Congo est à la une.
Oui, les combats ont continué hier, Julien. Toujours à une vingtaine de kilomètres de la grande ville du Nord Kivu, les autorités congolaises ont réuni un conseil de défense à Kinshasa. Le conseil de sécurité de l'ONU devrait lui se réunir lundi. Nous sommes en direct de la capitale de la RDC. Nos dernières infos dans un instant. Il confond gestion de l'État et animation d'un parti politique. C'est ce que disent certains opposants tchadiens alors que le président de la République convoque un congrès du MPS, la formation dont elle est président d'honneur, correspondant à N'Djamena. Dans quelques minutes, le journal des sports, dans une dizaine de minutes, les premiers mots du crack égyptien Omar Mahmoud qui vient de signer à Manchester City et qui pourra jouer dès ce soir face à Chelsea. Les combats intenses se sont donc poursuivis toute la journée d'hier, tout près de Goma, la capitale du Nord Kivu. Sur deux fronts, à l'ouest d'abord, autour du verrou stratégique de Sake, et puis au nord, près de Kibumba. Ces deux lignes de contact sont situées entre 15 et 20 kilomètres de Goma. Aux prises, toujours, bien sûr, le groupe armé du M23. Sur le terrain, il est, selon les experts de l'ONU, directement encadré par l'armée rwandaise. Et puis l'armée congolaise qui s'appuie, elle, sur des milices, mais aussi sur les forces de la SADC d'Afrique australe et les casques bleus de la MONUSCO. Dans ce contexte, le président Félix Tshisekedi a réuni un conseil de défense hier. Pauline Azidi, le chef de l'État a ordonné du renfort en matériel pour protéger Goma. Il a aussi confirmé le décès du gouverneur militaire du Nord Kivu.
Oui, cette journée de vendredi a été marquée par l'annonce de la mort du général-major Peter Chirimwami, officier des FARDC et actuel gouverneur militaire de la province du Nord Kivu. Des suites de ses blessures, il a été touché jeudi alors qu'il s'était déplacé vers la ligne de front à l'ouest, évacué dans la nuit vers Kinshasa. Il est décédé peu de temps après. Hein, vous le disiez, depuis deux jours, les affrontements se déroulent principalement donc sur ces deux axes, à une vingtaine de kilomètres au nord et à l'ouest de Goma, vers Sake. Plusieurs forces interviennent aux côtés des FARDC, des Ouazalendo, ces groupes d'autodéfense alliés de Kinshasa pour contrer l'avancée du groupe armé et des Rwandais. Il y a la MONUSCO, la mission de l'ONU dans le pays, qui dans un communiqué hier a évoqué la présence sur le terrain de sa force de réaction rapide, unité d'élite de la mission. Il y a aussi les militaires de la SAMI-DRC, force d'Afrique australe, principalement des soldats sud-africains. Au nord, les affrontements ont endommagé une ligne électrique importante pour la ville de Goma, celle qui transporte le courant depuis la centrale de Matébé dans le Rutshuru. Mercredi, c'est une autre ligne qui alimente Goma qui avait été endommagée dans des combats au sud Kivu. Tous les quartiers étaient dans le noir cette nuit. Des structures sanitaires et des hôpitaux ont dû recourir à des groupes électrogènes.
Une situation en tout cas qui fait monter forcément la tension sécuritaire d'un cran à Goma, la capitale provinciale, poumon économique qui est déjà saturé de déplacés internes, constellé de camps d'accueil depuis de longs mois, Paulina.
Oui, plusieurs chancelleries ont demandé face à cette situation à leurs ressortissants de quitter le secteur. Du côté de la communauté internationale, des déclarations ont plusieurs fois condamné la dernière offensive du M23 et la menace que les rebelles font peser sur la capitale provinciale. L'Angola, médiateur de cette crise, demande une nouvelle fois à toutes les parties de rejoindre la table des négociations, alors que l'Union européenne durcit le ton et assure qu'elle considère, je cite, « tous les outils à sa disposition afin de demander des comptes aux responsables du maintien du conflit armé, de l'instabilité et de l'insécurité en RDC. »
Pauline Azidi en direct de Kinshasa, merci. Côté diplomatique, tiens, justement, le président congolais a envoyé sa ministre des Affaires étrangères à New York. La RDC, qui est soutenue par la France, demande une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. Elle aura lieu lundi. La médiation angolaise, elle, est au point mort. Ces derniers jours, c'est une autre offre de bons offices qui est arrivée depuis Ankara, la Turquie qui vient de réussir à faire se rapprocher Éthiopie et Somalie, qui agit aussi au Soudan. Le président Recep Tayyip Erdogan propose donc une médiation entre la RDC et le Rwanda. Jeudi, il recevait d'ailleurs à Ankara son homologue rwandais Paul Kagame. Sur le terrain, Paulina le disait, les troupes d'élite de la MONUSCO sont engagées directement face au M23. Elles sont chargées de protéger les civils, de défendre. Des civils dont beaucoup ont peur. Écoutez ces quelques témoignages recueillis par Héritier Baraka, notre correspondant à Goma.
Les activités sont ralenties à cause de la guerre. Certains n'ont pas ouvert leurs boutiques parce qu'ils ont eu peur, mais d'autres magasins fonctionnent normalement. Mais c'est vrai qu'il y a des déplacements de population.
Nous avons peur, mais nous ne pouvons rien faire, alors nous attendons la volonté de Dieu. Nous avons peur parce que nous entendons des détonations d'armes lourdes. Il y a beaucoup de questions sur la situation. Est-ce qu'ils vont venir jusqu'ici ou pas ?
Comme tout humain, je disais que...
Comme tout le monde, je dis qu'il y a de la peur. Ces détonations d'armes lourdes, on les ressent dans nos corps. Alors nous prions pour que Dieu nous aide. Si les FARDC réussissent à les déloger, à chasser les rebelles afin qu'ils ne viennent pas en ville, ce serait une bonne nouvelle.
La peur est devenue comme une habitude chez nous. Nous connaissons ce sentiment. Mais que nous ayons peur de la guerre ou pas, c'est la même chose. Nous restons ici, car dans les autres zones, nous pourrions nous réfugier. Il y a des combats. Pour l'instant, on reste ici. On n'a pas d'autre endroit où aller.
Une situation dramatique dans les mots des habitants, des gomatraciens, des gomatraciennes. L'ONU, de son côté, évoque le chiffre de 400 000 déplacés depuis début janvier. Le chiffre a doublé depuis la semaine dernière. Manenji Mangundu dirige l'ONG Oxfam en RDC.
Les gens sont visiblement fatigués, ils ont faim, ils n'ont pu prendre que très peu de choses avec eux dans leur fuite. Nous essayons de leur apporter non seulement de la nourriture, mais des conteneurs et des couvertures pour qu'ils puissent se protéger. Ces déplacés qui arrivent sur Goma ont besoin de tout. Ils ont été déplacés du Massissi, sont descendus sur Mwezo et Minova. Quand les combats ont éclaté à Minova, ils ont dû se déplacer à nouveau. Ils sont vraiment en mauvais état, physiquement et psychologiquement. C'est pour cela que j'en appelle à la communauté internationale. Il faut que les deux parties discutent. Il faut pousser pour une résolution de ce conflit. Nous avons besoin d'un cessez-le-feu maintenant, pas demain. Et en même temps que ces efforts diplomatiques, nous avons besoin de financement. Je comprends qu'il y a un problème de financement, qu'il y a d'autres crises sur la planète, mais la crise dans ce pays semble vraiment avoir été oubliée. Il nous faut de l'argent maintenant pour que les gens puissent au moins manger un repas par jour.
Manenji Mangundu de l'ONG Oxfam en RDC, interrogé par Alexandra Branjon.
RFI à N'Djamena, 100.2 FM.
Au Tchad, un chef d'État devrait-il faire cela ? Le président de la République convoque un congrès de son parti politique, grand rendez-vous du mouvement patriotique du salut, le MPS, fondé par feu son père Idriss Déby Itno. Le président Mahamat Déby le convoque pour mercredi, dans 4 jours. Après sa large victoire aux élections législatives du 29 décembre, le MPS doit s'atteler à la refondation du Tchad. Mais à N'Djamena, plusieurs voix s'élèvent contre ce qu'elle voit comme un mélange des genres, Victor Moria.
Où va-t-on ? C'est ainsi que se conclut un texte de l'ancien Premier ministre et président du RNDT, Le Réveil, Albert Païmipa Daké, publié sur Facebook. Celui dont le parti est arrivé deuxième aux élections législatives dénonce une violation de la Constitution par le président de la République. Il cite l'article 77. Les fonctions de président de la République sont, je cite, « incompatibles avec toute activité au sein d'un parti ou regroupement de partis politiques ». En convoquant le congrès du MPS, dont il est président d'honneur, le président, explique M. Padaké, fait peser une grave menace pour le pluralisme politique et pour tous les Tchadiens qui ne sont pas militants du MPS. Une analyse partagée par Max Kemkoy qui accuse Mahamat Idriss Déby de confondre gestion de l'État et animation de parti. Selon le docteur Issadou Bragne, porte-parole du MPS, la régulation du MPS par le maréchal Mahamat Déby, président d'honneur du parti, est conforme au statut adopté lors du congrès extraordinaire et seuls les organes compétents, comme le Conseil constitutionnel, peuvent juger de la légalité des actes du chef de l'État. Toujours selon le porte-parole, le congrès a quant à lui pour objectif de redynamiser le parti afin de mettre les militants en ordre de bataille pour réaliser le programme politique sur lequel le président a été élu. Victor Morian, N'Djamena, RFI.
Il est 6h39 à N'Djamena, une heure de plus à Khartoum, le Soudan, où l'armée affirme avoir brisé le siège de son quartier général. Dans la capitale, il avait été encerclé très vite, dès le début de la guerre avec les paramilitaires en avril 2023. Paramilitaires des forces de soutien rapide qui contestent cette avancée de l'armée à Khartoum. Difficile d'obtenir des informations indépendantes de ce point de vue. Un mot du Soudan du Sud où les autorités lèvent finalement le blocus d'une partie des réseaux sociaux. Elles avaient annoncé mercredi un blocage de 30 jours sur Facebook et TikTok notamment. L'objectif c'était d'empêcher l'engrenage des violences contre les Soudanais à Djouba et dans d'autres villes. La mesure de coupure de certains réseaux sociaux était fortement contestée. Au Nigeria maintenant, c'est un groupe armé assez nébuleux mais qui est actif depuis une petite décennie dans le nord du pays. Un groupe baptisé la Kurawa, on vous en a parlé sur RFI ces derniers jours, ça veut dire recrue en langue Hausa. Il agit à cheval sur la frontière avec le Niger et même largement à l'intérieur du Nigeria désormais. Il fait de plus en plus parler de lui, au point que désormais les autorités nigérianes le considèrent comme un mouvement terroriste. Décision jeudi soir de la Cour de justice d'Abuja, Lisa Fabian.
La justice nigériane a officiellement déclaré que les activités de la Kurawa sont illégales n'importe où au Nigeria, mais particulièrement dans le nord-ouest et le centre-nord du pays. C'est le ministre de la Justice qui a déposé cette demande, alors que les autorités s'inquiètent depuis début novembre de la résurgence du groupe la Kurawa, pourtant présent depuis au moins 6 ans dans la zone frontalière entre le Niger et le Nigeria. D'abord chargé de protéger les communautés locales des attaques répétées des gangs armés, les membres de la Kurawa sont devenus plus agressifs dernièrement. Les chercheurs estiment qu'ils ont des liens avec les djihadistes et qu'ils entendent établir un califat dans la région. L'influence de la Kurawa s'étend désormais plus au sud de l'état de Sokoto, mais également dans la région voisine de Kebbi et jusque dans l'état de Zamfara, des zones désertées par l'état nigérian, mais aussi par les autres groupes armés. La justice nigériane a souligné que la Kurawa correspond aux critères établis par la loi sur la prévention du terrorisme. Cette définition permet des sanctions plus sévères pour les membres présumés du groupe, mais aussi pour leurs informateurs et toute personne leur fournissant une aide logistique.
Et vous retrouvez une longue analyse sur ce groupe armé, la Kurawa, les craintes au Niger et au Nigeria, signée Lisa Fabian, notre spécialiste de la zone, sur l'application RFI ou sur votre ordi, le www.rfi.fr. On va terminer au Mali et ses nouvelles accusations contre l'armée malienne et ses supplétifs du groupe Wagner. Des exécutions sommaires, selon les informations recueillies par Radio France Internationale. Une dizaine de personnes égorgées, décapitées, tuées par balles, mardi et mercredi dernier, dans le centre du Mali, dans la région de Douenza, très exactement. D'importantes destructions sont également rapportées par nos sources. Les précisions de David Baché.
La patrouille Fama Wagner est partie mardi de Koro en direction de Boulikessi. Selon les informations recoupées auprès de plusieurs ressortissants de la zone et de représentants communautaires, 3 dogons de la commune de Dinangourou sont enlevés, puis leurs corps retrouvés décapités. Le lendemain, mercredi, c'est dans le village de Bouldé, commune de Mondoro, que Wagner et les soldats maliens exécutent 5 peuls et en blessent 4 autres par balle. Les sources rapportent des intrusions dans les familles vers 8h du matin, des personnes égorgées chez elles, une 40aine de greniers à mil incendiés et des motos détruites. Le même jour, dans le village de Nyangasadiou, 2 dogons et 3 bellas sont également exécutés. Parmi les victimes, certains sont présentés comme des vendeurs d'essence. Étaient-ils soupçonnés de vendre aux djihadistes? Les commerçants ont-ils le choix dans cette partie du territoire malien, en partie dominée par la Katiba Massina du Jnim, liée à Al-Qaïda? En tout état de cause, les sources rapportent des exécutions sommaires, sans combat ni arrestation. Une source sécuritaire malienne commente, c'est la méthode Wagner. L'armée malienne n'a pas communiqué sur ses opérations et, sollicitée par RFI, n'a pas donné suite.
David Baché. En Tunisie, l'avocate Sonia Dahmani reste en prison. On se souvient de son arrestation l'an dernier en pleine interview en direct sur France 24. Hier, la justice tunisienne a confirmé en appel sa condamnation. Elle a légèrement réduit sa peine, 1 an et demi au lieu de 2 ans de prison. Détail dans le prochain journal Afrique, dans une heure. Julien Coquet.